Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
The river view is giving her for a silent way to stop.
Bonjour à tous. Ils ne sont plus forcément les bienvenus en Allemagne. Les réfugiés afghans commencent à être renvoyés chez eux parce que certaines régions de leur pays sont désormais décrites comme sûres. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le gouvernement d'Angela Merkel en octobre dernier. 80 000 migrants craignent désormais un aller simple sur Kaboul et plusieurs dizaines d'entre eux sont déjà partis. Un reportage à Munich signé Pauline Curté.
Depuis le 14 février, Farid Kouani n'arrive plus à dormir. Car le 14 février, ce migrant afghan âgé de 24 ans, logé dans un centre d'accueil près de Munich, a reçu une lettre des autorités allemandes lui annonçant que sa demande d'asile avait été rejetée. À tout moment, la police peut venir le chercher pour l'expulser vers son pays d'origine. Une situation qui, assure-t-il, le rend presque fou.
Depuis environ une semaine, je ne peux plus dormir dans le centre. Je dois aller me cacher parce que sinon, la police va venir pour m'arrêter. Alors, je deviens fou. Je passe ma journée à réfléchir, à penser. Je joue avec mon téléphone, j'écoute de la musique. J'ai l'impression d'avoir perdu le fil de mon destin. Je suis venu ici, j'ai recommencé à zéro. Tout le monde me dit que la vie est belle en Allemagne, mais moi, je n'ai toujours pas vu cette beauté.
Farid est arrivé en Allemagne en décembre 2015. Il dit avoir fui l'Afghanistan car il a enseigné l'anglais à des jeunes filles, ce qui lui a valu des menaces de la part des talibans de sa région. Une fois en Allemagne, il n'a pas perdu de temps. Il a appris l'allemand à un temps record et effectué une formation dans une entreprise de Munich. Son employeur était prêt à l'embaucher, mais à cause du rejet de sa demande d'asile, il n'a plus le droit de travailler. Bref, Farid est désespéré et révolté.
Le gouvernement allemand dit que le nord de l'Afghanistan est une région sûre. Je viens de Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan. L'armée allemande y était pendant 2 ans et a dû repartir parce que c'était trop dangereux. Alors non, ce n'est pas une région sûre. Si l'Allemagne veut me tuer, il lui suffit de me renvoyer là-bas.
Seule lueur d'espoir pour Farid, il est bien entouré. Plusieurs Allemands essaient de l'aider, dont Mandy Kontaler, qui lui a enseigné l'allemand et qui ne veut pas le laisser tomber.
Farid a réussi à se construire un réseau de gens qui sont là pour l'aider. Grâce à cela, il a fait appel du rejet de sa demande d'asile, mais je doute que ça fonctionne. J'appelle souvent la personne qui voulait l'embaucher et qui essaye aussi de faire changer les autorités d'avis. Sinon, je ne peux qu'essayer de le motiver, de l'encourager. Mais je le comprends quand il dit qu'il devient fou, parce qu'il n'a rien à faire.
En fait, Farid n'a pas de chance. Il se trouve en Bavière, dans un des Länder allemands qui a pris l'initiative d'expulser les demandeurs d'asile afghans. Ce n'est pas le cas partout. 5 Länder refusent de procéder à ces expulsions aux grandes dames du ministre allemand de l'Intérieur. Mais comme il a été inscrit en Bavière dès son arrivée en Allemagne, Farid n'est pas autorisé à déménager dans un autre land. Il s'agit là d'une règle fédérale. Il réfléchit donc à d'autres solutions pour éviter l'expulsion et cherche de l'espoir là où il n'y en a malheureusement pas.
J'ai des amis afghans qui sont partis en France après avoir reçu une réponse négative à leur demande d'asile. Ils ont un appartement maintenant et ils disent qu'ils vivent mieux. Mais il n'est pas encore sûr qu'ils reçoivent une réponse positive là-bas. Je n'ai pas décidé ce que je veux faire, mais si le gouvernement allemand décide qu'il faut expulser tous les Afghans, je dois me poser la question, où dois-je aller? Et je n'ai qu'une réponse, pas en Afghanistan. Peut-être que je finirai par mourir dans la mer entre la France et l'Angleterre, mais je ne retournerai pas en Afghanistan.
Depuis 2 mois environ, une bonne centaine de migrants afghans ont été expulsés d'Allemagne vers leur pays d'origine par un vol spécialement affrété pour eux. Le plus souvent, les associations d'aide aux réfugiés connaissent la date de ces vols en avance et se mobilisent pour éviter un maximum d'expulsions. Stéphane Dunwald travaille pour l'une de ces associations, le Bayerischer Flüchtlingsrat.
Mehr Une fois qu'on a épuisé tous les moyens légaux, on communique la date des expulsions, si on peut, aux réfugiés pour que la police ne les trouve pas chez eux. Mais sur le long terme, c'est difficile de rester caché en Allemagne. Il y a beaucoup de contrôles. Et si on se cache, on est considéré comme un criminel et plus comme un réfugié.
Farid, lui, continuera à se cacher pour échapper à la police et rester en Europe. Il a d'ailleurs déjà cherché quel était le meilleur itinéraire pour se rendre en France.
La droitisation du monde, une tendance de fond entamée il y a plus de 30 ans, nous dit l'historien des idées François Cusset, qui signe chez l'éditeur textuel un ouvrage du même nom, une droitisation qui n'épargne aucun continent, mais qui trouve son apogée avec l'élection récente de Donald Trump aux États-Unis, comme il l'a expliqué à Catherine Roland.
Moi, j'y vois un signe à la fois d'une fusion terminale et assumée du pouvoir économique, c'est-à-dire entrepreneurial, et du pouvoir politique, qui sont donc plus séparés puisqu'ils sont désormais la même personne. Il va diriger le monde depuis la Trump Tower et l'Amérique comme un conseil d'administration multinationale. Et puis, bien sûr, sa campagne démagogue protectionniste, patriote, prétendant vouloir s'opposer au libre-échange qu'il a quand même enrichi, est aussi un signe des temps, c'est-à-dire c'est la vieille droite des catharsis, des haines, des boucs émissaires, du repli national, voilà, avec Trump et quelques équivalents européens. Ça, c'est nettement plus inquiétant. Ouais.
Oui, alors vous parlez de parachèvement de cette droitisation, parce que dans le livre, vous détaillez trois grands mouvements. Hein, le premier dans les années 80, ensuite dans les années 90, la dérégulation, et puis le dernier commencé dans les années 2000. Vous pouvez nous préciser un petit peu ces trois mouvements ?
Effectivement, il y a trois moments assez nettement séparés. Un premier qui est vraiment un coup de force idéologique. Alors étonnamment, en France, il a pris la forme du premier septennat de François Mitterrand, donc c'est un peu curieux comme droitisation. En même temps, il a fallu voilà toute sa à rouerie, son élégance et ses trahisons pour convertir la France à l'entreprise, à l'esprit d'entreprise. Vous vous souvenez, c'était Bernard Tapie, Alain Minc, enfin, ces figures voilà, un peu pailletées des années 80. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, ça a pris la forme beaucoup plus nette de Margaret Thatcher et Ronald Reagan qui dérégulent, privatisent et annonce l'écrasement du mouvement social. Voilà, on passera dessus s'il le faut. Ils l'ont fait, surtout Thatcher. Dans les années 90, le contexte mondial avec la fin du bloc de l'Est semble effectivement donner raison à un mouvement qui est pourtant purement idéologique. Sauf que là aussi, très très vite, on va déchanter et cette espèce d'euphorie néolibérale doctrinale va se trouver contredite dans les faits, à la fois par un ensemble de guerres et de conflits d'un type nouveau, hein, post-guerre froide, Rwanda, Algérie, Yougoslavie, Irak, etc. Et puis par les premières crises, les premières instabilités financières, notamment dans les pays du Sud. La dernière phase, dans laquelle on est encore, en un sens, dont on essaie de sortir, mais enfin, on a l'impression d'en sortir plutôt par le bas pour l'instant, est une phase d'alliance entre finalement deux composantes très différentes de cette lame de fond droitière. La composante capitaliste, libre-échangiste, voilà, un peu déringardisée, rajeunie, c'est à la fois la Silicon Valley et les pouvoirs des actionnaires, et la composante traditionnelle, réactionnaire, du retour de bâton moral et de la militarisation des sociétés et des esprits. Donc en gros, les néoconservateurs et les néolibéraux, si vous voulez. Et cette alliance-là, elle est assez diabolique parce que c'est vraiment la droite, par ses deux aspects, occupe tout le terrain de l'espace public et de l'espace idéologique, d'où la réduction de ce terrain pour ce qui reste de gauche, si on peut encore employer le mot.
Alors, est-ce qu'on peut dire la même chose de certains dirigeants en Europe, hein, je pense à Orban en Hongrie, ou encore au chef d'État tchèque Miloš Zeman, qui est un soutien zélé hein, d'ailleurs du président Trump.
Il est clair qu'il joue sur le ressentiment du petit blanc, sur tout un ensemble d'amertumes de type ethnique, ethnocentrique, voilà, et clairement opposé à toute forme voilà, d'immigration ou de métissage des sociétés européennes. Donc là, il y a vraiment un retour de bâton ignoble à certains égards, chrétien, frontalier, raciste, sur lequel il joue, alors avec en dosant la chose, hein, tout ça c'est de la stratégie politique. Mais enfin, il est clair que les pays de l'Europe du centre et de l'Est, qui ont finalement payé les pots cassés de l'euphorie néolibérale, hein, ça a donné aussi beaucoup de pauvreté, beaucoup de ressentiment, des taux de chômage assez élevés, et du coup, ça fait de l'électorat tout frais pour les populistes de droite.
Vous évoquez de nouvelles manières de s'opposer à cette droitisation du monde. Vous citez notamment, depuis plusieurs années maintenant, les mouvements sociaux alternatifs.
Que ce soit les jeunes zadistes, hein, des zones à défendre qui s'opposent aux grands projets industriels d'aéroports à Notre-Dame-des-Landes ou autres, et qui voilà vivent à quelques centaines sur place en s'opposant à la police. Que ce soit les quartiers des villes ravagées par le capitalisme au sud de l'Europe, Athènes ou Barcelone, et qui donc s'organisent entre eux. Hein. On y développe des solidarités pour aider les vieux, soigner les malades et survivre. Ces phénomènes-là sont tellement minoritaires que si on en reste là, on dit oui, enfin c'est pas ça qui va changer le monde. En fait, derrière ça, ce qu'il faut penser, c'est les façons qu'ont les gens de s'organiser plus ou moins collectivement. Ces formes de survie vont des mises en commun par l'écologie, par les cultures urbaines, par le bricolage, par quelques formes de fraude aussi. Donc les mises en commun économiques qui permettent de compenser la baisse des revenus. Mais voilà, si on met bout à bout, si vous voulez, les petites résistances, les façons de s'organiser collectivement pour faire baisser le coût de la vie concrètement, et l'usage de formes sociale à la place de services publics ou de santé qui se retirent et qui n'existent plus. On ne sait pas combien de gens sont concernés, on sait qu'énormément de gens le sont, puisque finalement, sinon, tout le monde serait dans la rue. Donc quelque part, on est déjà dans la période d'après, hein, celle qui va venir, celle de formes d'auto-organisation qui sont en train de s'inventer. C'est juste la survie collective, solidaire, mais voilà, qui s'organise, je vous dis, des quartiers d'Athènes aux campagnes et aux néo-ruraux français, ou encore aux zapatistes du Mexique qui, depuis 25 ans, tiennent bon. Donc, effectivement, ça existe, mais à bas bruit.
La droitisation du monde de François Cusset aux éditions Textuelles. C'est une découverte de taille. Les astrophysiciens belges ont mis à jour, en partenariat avec la NASA, 7 exoplanètes, dont 3 qui pourraient abriter de l'eau, des océans et pourquoi pas de la vie. Des scientifiques qui ne manquent pas d'humour puisqu'ils ont baptisé leur nouveau soleil TRAPPIST. Les explications depuis Bruxelles de Lax-Milota.
Ils ont appelé le soleil qu'ils ont découvert TRAPPIST, comme la fameuse bière belge. Cette naine rouge est 9 fois plus petite que notre soleil. Autour de cette étoile située à 40 années-lumière de la Terre, 7 planètes rocheuses. 3 d'entre elles abriteraient des océans. On pourrait donc imaginer que de la vie puisse s'y développer, explique l'un des chercheurs. Mais les scientifiques ne savent pas pour l'instant si ces planètes ont une atmosphère. Il faudra attendre l'année prochaine pour cela, avec le lancement dans l'espace du télescope James Webb, successeur de Hubble. Le ministre belge de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas caché sa fierté. C'est une consécration historique pour la Wallonie. Nous sommes à la pointe de la recherche sur la découverte d'autres mondes habitables, a-t-il dit. Mais d'autres scientifiques souhaitent relativiser cette découverte. L'eau liquide ne signifie pas forcément présence de vie, explique l'un d'eux. Il faut aussi une atmosphère, de l'eau à bonne température, beaucoup de molécules. Bref, la Terre est unique. Les 7 planètes TRAPPIST ont toujours la même face tournée vers le Soleil, la moitié est dans une obscurité permanente. Évidemment, avec les technologies actuelles, impossible pour l'instant d'aller déguster une TRAPPIST sur ces planètes. Même l'envoi d'une sonde, d'un robot, ne sont pas envisageables pour le moment. Il faut se contenter des télescopes et patienter. Porque tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse. Me encierra los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando.
Une mère qui fait la guerre aux nouveaux hôtels et qui a même décidé de geler toute nouvelle construction dans le centre-ville. Une mère face à ses électeurs, un peu déroutés, qui ne savent pas quoi choisir entre des emplois et la qualité de l'environnement. C'est le scénario qui se joue à Barcelone, où la nouvelle chef de l'équipe municipale, Ada Colau, a déclaré la guerre aux nouveaux établissements touristiques qui défigurent la ville. Reportage signé François Musso.
Nous sommes à Drassanès, en plein cœur de Barcelone. Sous nos yeux, un terrain vague entouré de palmiers et de murs lépreux. La chaîne Practique, qui dispose de tous les permis légaux, entend édifier ici même un hôtel de luxe. Or, la mairie s'y oppose, car elle estime que cela dénaturerait ce quartier populaire, habité en majorité par des familles modestes et des immigrés. Antonio, 37 ans, vétérinaire, fait partie de ceux qui soutiennent la mairie.
Je crois qu'un hôtel de luxe ici, dans le quartier, ça serait de trop, ça n'aurait pas de sens. Ça va rendre la vie et les logements plus chers. Il faut bloquer cette absurdité. Je crois que l'argent et cet endroit peuvent être utilisés autrement, par exemple avec un édifice public ou une zone verte.
Dans le quartier, tout le monde n'est pas d'accord avec Antonio. Certains pensent surtout aux 200 emplois qu'a promis le patron de la chaîne d'hôtels. Jordi Marti aussi veut que le bâtiment de luxe se construise. Cet avocat nationaliste est l'un des élus municipaux de l'opposition qui enrage contre la maire. Pour lui, celle-ci agit de façon irresponsable.
C'est une ingérence. Il n'y a aucune raison objective d'empêcher un promoteur de construire un hôtel s'il est en règle avec toutes les conditions exigées. On ne peut pas l'interdire.
Jordi Marti, comme l'ensemble de l'opposition municipale et le secteur hôtelier, est en colère. Cet hôtel ne sera sûrement pas construit. Une trentaine d'autres projets hôteliers dans le centre-ville ont été paralysés par la mairie. Pourquoi ? Parce que Ada Colau a décidé d'agir avec fermeté contre l'offre touristique. Son nouveau plan d'urbanisme oblige à une diminution de cette offre dans le centre et suppose un frein dans la proche périphérie. Hôtels, pensions, appartements touristiques, tous sont visés. Jeannette Sanz est l'élue en charge de l'urbanisme. C'est elle qui a élaboré ce plan si polémique.
On s'est aperçu que les logements touristiques changeaient la morphologie et l'identité des quartiers de la ville. C'est un vrai problème. Une auberge, un hôtel, une pension, toute cette floraison ne fait que substituer le logement résidentiel au logement d'un autre type et cela influence négativement les commerces, les services. À tel point que peu à peu, les habitants se rendent compte qu'ils ne disposent plus suffisamment de ces commerces ou de ces services. Et ce phénomène se produit un peu partout dans la ville. Alors, il fallait agir.
Ce que veut combattre Jeannette Sanz, c'est la gentrification des quartiers centraux de Barcelone. Pour elle et pour beaucoup d'habitants, cette ville est devenue si touristique qu'elle ressemble souvent à un parc thématique et que l'afflux de visiteurs, surtout ceux qui s'installent plusieurs semaines dans des appartements touristiques, finissent par provoquer la hausse des loyers et le départ des autochtones.
Certes, le tourisme est un élément central de notre ville. Et on peut le comprendre, notre ville est très attractive et les touristes espagnols ou étrangers viennent nous rendre visite. Notre ville est belle, c'est normal qu'on veuille en profiter. Nous, ce qu'on veut, c'est préserver justement cette attractivité touristique et faire en sorte qu'on ne tombe pas dans la médiocrité. En somme, nous voulons un secteur qui continue à bien fonctionner pour que tous les visiteurs continuent d'affluer ici.
Le principal obstacle, tous le reconnaissent, ce sont ces appartements touristiques qui se multiplient comme des petits pains. On en compte 10 000 légaux et 10 000 illégaux. Cela crée des nuisances pour les gens et beaucoup préfèrent partir vivre en banlieue pour leur tranquillité et pour une vie moins chère. La mairie est en guerre contre eux, notamment la plateforme américaine Airbnb qui a déjà été punie d'une amende de 600 000 euros pour annoncer des appartements illégaux. Dans l'opposition, on est d'accord aussi pour lutter contre eux, mais on estime que la politique de décroissance touristique est une erreur. Jordi Marti, l'avocat nationaliste.
À mon sens, les gens de la mairie introduisent une insécurité juridique qui est très problématique pour les promoteurs locaux ou internationaux. Et ce qu'on veut, en fait, et c'est grave, c'est nous diriger vers la décroissance économique.
Le débat reste ouvert. Ce plan permettra-t-il ou non de transformer une situation critique dans le centre-ville ? À la mairie, on affirme en tout cas haut et fort que pour changer cette situation, il fallait un plan radical, je cite, « un plan en faveur des habitants de Barcelone ».
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission puis Accent d'Europe. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants. Un nouveau point sur l'actualité.